Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode, je crois, 66 ou 67. Je suis pas sûr, c'est pas grave. Vous le voyez déjà, l'épisode que vous écoutez, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcasts, peu importe. Nous, on est en direct en ce moment dans notre groupe Facebook. Donc, PL qui est avec moi aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans un sujet, de parler de prospection, en fait, si je peux l'isoler comme ça, de parler de prospection, d'acquisition de lead. C'est tout le temps le nerf de la guerre pour à peu près 90-95% du monde, ça revient à ça dans la guerre quand on enlève d'autres problèmes de préqualification pis ci pis ça. Pis aujourd'hui, on a le goût de parler de porte-à-porte parce que en 2024, pas grand monde, hein, PL, qui fait du porte-à-porte. On peut se le dire, là, c'est quand même, c'est assez libre le champ, là, actuellement, pis moi, en tout cas, ce qui me vient en tête, c'est qu'en 2024, on dirait que tout le monde essaie d'aller vers des solutions juste technologique, hein, on a le AI partout qu'on voit en ce moment, tu sais, on veut faire de la pub, on veut tout faire sauf entrer en contact avec du monde. Puis c'est un peu le contraire de la vente, fait qu'il faut qu'on aborde ça, puis il faut qu'on parle du porte-à-porte, pourquoi c'est encore important aujourd'hui.
Puis comme on disait en début d'appel avant le record, tu sais, le début de l'été, ça nous rend toujours un peu nostalgique, hein, parce que pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, ben on a commencé à gagner notre vie avec le porte-à-porte, tu sais, parce que quand t'es jeune, que t'as pas de ressources, que t'as pas d'argent, puis que tout ce que t'as, c'est ton bon vouloir, puis être capable de passer à l'action, le porte-à-porte, c'est une excellente stratégie. Mais c'est aussi une excellente stratégie parce que c'est un océan bleu, le porte-à-porte.
Ah, que...
Ce qui dit, ben, je pense que ça l'a pas mal toujours été dû à sa complexité. C'est sûr qu'à un certain moment, il y en avait plus autrefois parce que les multiples stratégies qu'on connaît aujourd'hui n'existaient peu ou pas. Mais pourquoi je dis que c'est un océan bleu? C'est que ce qui caractérise un océan bleu, c'est soit le positionnement de l'offre ou la faible concurrence. Il y a différents facteurs. Mais dans le cas du porte-à-porte, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Mm-hmm. La majorité des gens choke. Ils ne passent pas à l'action, peur du jugement des autres, peur du jugement de la communauté, peur du jugement du client, etc. C'est très tabou comme approche, mais il y a environ personne qui fait ça, tu sais. Alors pour moi, le fait que ça soit un océan bleu et que personne fait ça puis que ça coûte rien, sauf des efforts et de la pratique pour être capable d'arriver à avoir un résultat qui en découle, ça fait que c'est une stratégie qui ne se dénature pas puis qui reste excessivement intéressante pour n'importe quel entrepreneur qui rush au niveau de son bouche-oreille, qui a de la misère parce que l'économie est plus tough, que ses cost per lead augmentent de façon vertigineuse parce que l'algorithme a changé. Mais tout ça, ce sont des facteurs incontrôlables, mais le porte-à-porte, les efforts que tu en mets, ceux-là sont contrôlables puis ils dépendent juste de toi. Puis comme je viens de le dire, il n'y en a pas de concurrence, ou presque pas. T'sais? Fait que c'est pour ça qu'il faut pousser vers cette direction-là quand il n'y a rien qui va, à mon avis.
Ouais, ben en fait, je pense que même avant qu'il n'y ait rien, avant de se rendre là, puis là, isolons les choses, là, c'est sûr que le porte-à-porte, c'est meilleur dans une industrie B2C que B2B, parce qu'au B2C, tu as la game de volume qui rentre là-dedans. C'est-à-dire que tu t'en vas dans un secteur, si il y a 300 maisons, tu ne perds pas ton temps. Là. Tu cognes une porte, tu es rendu à... ça répond pas, tu cognes la prochaine, ça prend 15 secondes. Se promener d'une porte à l'autre, même que nous autres, on sautait d'un terrain à l'autre sans passer dans la rue par bout pour couper puis parler à plus de gens possible dans une journée. Mais tu sais, le porte-à-porte dans le B2C fonctionne bien. Ça fonctionne dans le B2B aussi. C'est-à-dire que c'est toujours une bonne solution d'aller se rendre chez tes clients, mais ça dépend du domaine parce que quelqu'un qu'il faut qu'il fasse 5 minutes de char, débarque de son char, aille cogner une porte, refasse 5 minutes de char, débarque de son char, cogner une porte, dans du porte-à-porte où est-ce qu'on sait pas si la personne, elle, est disponible, présente, surtout des propriétaires d'entreprise, ben des fois, au B2B, on priorise d'autres choses. Mais pour tout le monde qui est au B2C, définitivement, le porte-à-porte reste une avenue. Si tu vends des boxeurs, va pas voir ça au porte-à-porte, Chris, là, je veux dire. Va sur Amazon, Steve, fais-toi un e-commerce, là, tu vas parler à plus de monde. Mais tu sais, on envoie du monde. Que ce soit des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des gens qui vendent des services pour la maison, des conseillers financiers. Tu sais, si tu t'adresses à monsieur, madame, tout le monde, qui a un toit ou qui est un humain d'âge moyen, ben, Chris, tu vas cogner à des portes, même des fois des appartements, là. Ça dépend de la stratégie, mais c'est que c'est tellement... Moi, c'est ça que je veux revenir sur ça, Chris. Le porte-à-porte, c'est que c'est tellement accessible. Hein? Tout le monde a ça. T'as des souliers? Oui, merveilleux. OK? T'as des maisons proches de chez vous? Oui, OK, parfait. T'es en business.
T'es parti.
On a de quoi faire, là, OK? C'est que ça prend vraiment pas grand-chose pour faire ça. Puis est-ce que le monde, qu'est-ce qu'ils font? Premier réflexe, OK, comment je vais me partir une page Facebook? Comment je vais faire pour être vu partout? Comment je vais faire pour rejoindre le monde qui m'appelle directement? Tu sais, souvent le monde il se lance en affaires, puis je vais parler des solopreneurs. Mais on cherche tout le temps les petites solutions comme facile où on regarde ce que les autres font puis on décide d'aller dans ce chemin-là. Tout de suite parce que tout le monde fait ça, tout le monde fait de la pub, tout le monde une page web, tout le monde a un site web, on va faire ça, puis c'est souvent les premiers réflexes on dirait qu'on a. Mais pourtant, il n'y a rien de mieux que de parler directement avec son client.
Peu importe, ouais, parce que
rien de mieux.
La vraie réponse, c'est le client qui te la donne. Là, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup l'erreur de tomber dans les trends. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit « ça te prend ça, ça te prend ci, ça te prend ça ». On appelle ça du marketing. Ouais. Puis ces gens-là qui vendent des sites web ou qui vendent de la pub, ils font du très bon marketing. C'est leur travail, j'espère qu'ils font du bon marketing. Mais essentiellement, est-ce que c'est ta situation? Est-ce que tu n'aurais pas pu prendre une autre alternative pour aller générer de la trésorerie puis comme affiner tes compétences? Tu sais, parce qu'on s'entend, là, force est d'admettre que quand tu commences ou quand tu es dans ta première ou ta deuxième année d'exploitation, t'es pas tellement excellent en vente et en communication, puis tu connais pas toutes les subtilités de ta business. Alors là, en ce moment, tu paies pour apprendre à devenir meilleur avec des clients qui te coûtent quelque chose.
Tu suis la trend. On va en faire une trend, OK? Double tes ventes, OK? Entrepreneur dans les domaines des services pour la maison, double tes ventes dès cet été en intégrant le porte-à-porte. On pourrait faire un trend là-dessus, là? On pourrait faire, je sais pas, une pub, là, qu'on va générer des leads nous-mêmes, là, comme ça, pour aider le monde à faire du porte-à-porte. Mais Chris, ouais. Je suis un entrepreneur de services cet été. À chaque fois que je me déplace chez un client, ou je parle à n'importe qui, à chaque fois que vous avez à parler avec un client, vous déplacez chez eux, allez cogner tout le voisinage avant tout.
Yep.
Donnez-vous ce type d'objectif-là d'aller cogner tout le monde. Moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est les gars qui ont des camions en train de faire une toiture, en train de faire de l'aménagement paysager, de la peinture, name it. Ils ont les trucks dans la rue, là, lettrés ou non, là, sont en train de travailler, puis après ça, ils remballent leurs affaires, ils s'en vont, il n'y a personne qui va voir les voisins. Ou on y va très passivement en laissant des flyers, tu sais, comme, genre, rappelle-moi, allez au contact des gens alentour de ça. Si vous faites une toiture dans un quartier, des crises de bonne chance que les maisons à côté étaient bâties en même temps et que les toitures aient été changées pas mal dans les mêmes timings tout le temps. Fait que t'as déjà là plein d'opportunités à côté. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils font? Puis tu sais, j'enlève rien aux pubs, Chris. On en fait de la pub. On travaille là-dedans aussi. C'est bon d'avoir des pubs Facebook. C'est bon d'être capable de générer des clients. Mais si t'es pas capable d'utiliser, en plus de ça, ton door-to-door, à aller utiliser ton temps bien, genre dans un quartier qui est chaud déjà, si tu payes de la pub, comme tu es toujours à la recherche de ton next lead sans
travailler plus fort. Là. Encore une fois, c'est que c'est une, pour moi, là, ce que tu viens de parler, c'est un complémentaire à la publicité, puis c'est parce que les gens ils comprennent pas suffisamment le concept d'optimisation d'une opportunité. Parce que si tu es prêt à payer 1 000 $ pour l'acquisition d'un client de toiture ou peu importe, puis que tu ne vas pas cogner les portes autour d'une job que tu as produite, que le client est satisfait, que tu es payé, tout va bien, tu vas pas cogner ces opportunités-là, mais il n'y a pas de possibilité que tu puisses diviser ton coût d'acquisition sur la job. Donc, tu laisses de l'argent sur la table. Tu sais que c'est la première. La deuxième, c'est que tu es en train de développer une forme de paresse dans ton développement des affaires. Mm-hmm. Si Facebook ou Google te laisse tomber demain matin et que tu n'as pas pris l'habitude d'aller creuser autour pour développer ton business, tu vas faire le saut s'il t'arrive quelque chose. T'sais. On l'a vécu dans tous nos business, là, des pivots d'algorithme dans les pubs, là, c'est fréquent. C'est très fréquent. Il suffit d'une nouvelle loi au niveau canadien ou québécois qui vient limiter l'accès à l'information, qui vient de tout changer. Après ça, c'est une partie. Après ça, le contexte que Facebook ou Google peut décider de changer comment ils target les gens puis comment tu peux... tu sais, on l'a vu avec la montée du wokisme, là. On l'a vu, là, genre, tu peux plus targeter les femmes ou les hommes, c'est du sexisme. Tu peux plus targeter 18 ou 65 ans, c'est de l'âgisme. Fait que ultimement, comment peut-on comprendre, tu sais, comment le faire? Là, il y a une période d'adaptation, là, les agences web réussissent à passer au travers ou non. Bon. Mais si tu as d'autres alternatives pour aller mousser tes ventes, t'es capable de le faire pour être capable d'aller chercher de la business. Puis ça, c'est juste un petit extra miles. Mais essentiellement, ça peut être une stratégie à part entière.
J'aime ce que tu dis par rapport à l'imperméabilité. Tu sais, c'est ce qu'on apporte dans mais en fait, avec tous nos clients avec lesquels on travaille, d'aller créer une certaine imperméabilité au marché, c'est-à-dire que si ta stratégie numéro un va pas bien, mais faut que tu sois capable de t'accoter sur d'autres choses, que ton seul et unique, tu sais, tu veux pas avoir un équilibre qui repose sur un pilier puis que tu restes en équilibre sur ce pilier-là tout le temps. Tu veux en avoir plusieurs piliers pour être capable d'être solide sur tes deux pattes puis pas shaker. Puis c'est ça que beaucoup de gens ne le réalisent pas, c'est que ils tiennent en équilibre là, sur un fil de fer quand ils ont juste une solution de génération de clients, comme par exemple la pub Facebook ou Google. On est là-dessus, ça peut super bien aller tout le temps, mais le jour que ça plante, tu pognes une débarque là, puis tes ventes, ils en mangent un gros coup. Puis tu sais, on se l'est toujours dit, toi puis moi, si maintenant il arrive n'importe quoi demain matin, là, que je sais pas, la business marche pas, l'économie chie ou il arrive quoi que ce soit, ben on est notre meilleur outil. On va aller, tu sais, courtier immobilier, si demain matin on va aller cogner des portes, on va vendre des maisons, tu sais, je veux dire, on sait qu'on est, on a accès à ça. Fait que moi j'aime avoir cette sécurité là. Autant que c'est stressant être en business, mais quand tu le sais que tu es capable de faire de l'acquisition de clients en dépensant 0$ avec pas d'outils ou peu d'outils, même pas d'ordinateur, rien là, pratiquement. Je suis capable d'aller chercher des clients, mais c'est quand même... Ouais. Juste de dire ça de même, mais c'est le fun.
T'ouvres une canne de verre que je trouve exceptionnelle. Là, parce que tout le monde est comme, demain matin, tout tombe à zéro, là, puis que tu retournes en appartement ou tu vis chez tes parents, là. Ben, genre, deviens millionnaire en 3 ans, c'est certain. Genre, juste en allant cogner des pas. Genre, deviens millionnaire en 3 ans, je suis prêt à tout lâcher puis recommencer à zéro. Si tout me laisse tomber, l'économie me laisse tomber, le pays tombe en déroute, whatever. 3 ans, genre, deviens millionnaire avec une stratégie de, un service haute valeur, là. Je retournerai pas faire du lavage de vitre, on s'entend. J'irai pour un service haute valeur puis down the road, c'est sûr qu'on s'en va là. Puis ça, ben, effectivement, moi, c'est, by the way, c'est ce qui a diminué énormément mon anxiété en tant qu'entrepreneur. Parce que quand tu sais que toi, tu te laisseras pas tomber, évidemment, là, on rentrera pas dans la santé mentale, on en a parlé éperdument, là, mais quand toi, tu sais que tu te laisseras pas tomber, puis que tu vas y aller cogner des portes, puis toi, tu vas continuer à nourrir ta famille parce que tu as une responsabilité, puis que tu dois fournir puis contribuer au patrimoine familial, ben, le porte-à-porte, c'est une cinquième de belles stratégies. C'est comme le cold call, essentiellement. Donc, tu sais, si t'es capable de maîtriser une prospection active, pour vrai, t'es presque invincible tant qu'à moi en tant qu'entrepreneur. Ouais. Sauf si ta tête te lâche.
Oui, mais le porte-à-porte, ou mettons, je vais mettre le cold call là, aussi dans ce panier-là, là, c'est quand même une estime belle façon de travailler ta tête, là, veux pas, puis de développer une résilience, parce que quand t'as fait, là, pis t'sais, je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais si quand t'as cogné des dizaines de milliers de portes, là, no joke, là, ben t'sais, c'est parce qu'une année, la résilience, tu l'as, là, tu sais, puis tu les cognes les portes à travers plein de journées, hein, des journées où ce que je me souviens, c'est si l'énergie était pas là, une séparation, tu sais, des fois, des mauvaises nouvelles de santé, famille, amis, n'importe. Puis là, tu continues, puis tu travailles sans faire ça, puis tu t'apprends à développer comme cette capacité-là de focus, cette capacité-là d'introspection, de... Asti, c'est pour vrai, il y en a tellement de l'apprentissage à faire quand t'es en développement des affaires comme ça, à froid, porte-à-porte, cold call, puis je mets ce monde-là aussi dans le... Je trouve ça encore plus dur, moi, faire du cold call, puis j'aime bien mieux l'interaction humaine. Chris, que c'est... Ça demande tellement de travailler sur notre santé mentale, puis de s'équilibrer, parce que si on prend pas soin de notre santé mentale en faisant ça, mais rapidement, on se rend compte qu'on pourra pas toffer longtemps. Fait que ça nous oblige à prendre soin de nous, puis à se mettre dans cette position-là. Fait que les gens qui en font depuis longtemps, là, pourrait, tu le sais, que mentalement, sont solides.
C'est quelqu'un qui a son CV, 6 ans de porte-à-porte, je suis comme, oh, it's a fucking warrior, man, wow.
À moi qui étais payé à salaire, là.
C'est ça. Je distribuais des flyers en entrevue, je trouvais des flyers, moi, pas ça avant en tête, là.
Non, c'est vrai, parce qu'il y en a qui sont à salaire pour de vrai, là, fait que... Mais ouais, moi, tu sais, je trouve que ça a tellement été la plus belle école, parce qu'avant ça, dans ma vie, j'avais pas vraiment eu de gros challenge, tu sais, j'avais pas eu de côte insurmontable, puis tabarnak que ça a été dur sur mon ego, sur ma patience, sur mon introspection, si ma communication, t'en parlais tantôt, tu sais, au début, tu t'en souviens, ma communication, quand j'ai commencé à cogner des portes, fait que ça te force tellement à travailler plein de sphères, puis en tant qu'entrepreneur, ben... Tout ça, ça faisait déjà partie de mon coffre à outils quand je me suis lancé après à mon compte. Tu sais, j'étais travailleur autonome à cogner des portes, mais après, quand je me suis lancé comme entrepreneur, Chris, tu pars avec un esti bon bagage là, comparativement avec...
Ouais, ouais, puis honnêtement, je pense que c'est la meilleure école de la vente et de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Parce que les occasions, les échecs sont énormément plus nombreuses que les réussites. Puis quand tu réussis à faire pencher le nombre de réussites suffisamment pour faire une vie décente ou une business décente, ben là, ça devient vraiment intéressant parce que tu as craqué un code qui te permet d'être en contrôle, peu importe le service. Parce que quand tu as réussi à vendre un service en particulier, tu peux vendre n'importe quel service en porte-à-porte. Puis ça, ben, c'est ce que je reviens à tantôt. C'est un caractère qu'on pourra jamais t'enlever. Cet acquis-là, je pourrais jamais t'enlever lorsque tu l'as appris. Fait que tu sais, on élargit le spectre en disant ben, la prospection active, quand tu l'as acquis, quand tu as compris comment ça marche, ben, la business, il peut arriver n'importe quoi. Toi, t'es là pour sauver le bateau.
Tu peux faire n'importe quoi. Après, tu sais, c'est comme à chaque fois qu'on fait des scripts, là, dans des roleplays avec des clients, là, tu sais, on se pratique pas, là. On sort un script on the spot comme ça. Pis c'est comment tu fais, sti, pour genre bâtir un script? Ben, c'est parce que c'est tellement acquis, tu sais. C'est juste la mécanique du porte-à-porte d'être capable d'attirer l'attention de quelqu'un, de puncher. T'as pas besoin des détails techniques du produit, du service. C'est là que t'apprends vraiment aussi à jouer avec ça. Fait que, ces compétences-là là, sont honnêtement tellement valuable. Puis ça me fait penser à quelque chose pendant que tu disais ça. Tu sais, j'entends beaucoup de monde dire « Ah, les partenariats, le réseautage, c'est tellement important en business, ça doit être prioritaire. » Puis comme... Mais asti, je peux comprendre, il y en a qui ont bâti des business comme ça puis que ça fait partie de leur boîte à outils. Mais qui sort d'un réseautage ou d'un événement à dire « Hey, j'ai conclu 14 deals ou j'ai fait tant de chiffres d'affaires. » Tu sors de là puis t'as les doigts croisés et t'es comme « Ben, peut-être que ça va donner ça. Peut-être que ça. Peut-être que si. Peut-être que ça. » Puis moi, c'est ce que j'aime pas en business, les « peut-être » puis les « présumons qu'on va peut-être faire du chiffre d'affaires. Comment veux-tu grossir de cette façon-là? » Alors que quand tu fais de la prospection active, c'est pas des « peut-être que », c'est « j'ai booké tant de leads, je vais closer à 30% puis je sais que je suis capable de générer tant de chiffre d'affaires à la fin du mois. » Fait que, tu sais, ce contrôle-là du porte-à-porte, moi, c'est ça qui m'a appris ça, c'est j'ai des chiffres dans la tête, je vais les atteindre à la fin de ma soirée parce que je suis un métronome, mais si je suis capable de produire ça. Tu as déjà vu quelqu'un, toi, en réseautage? Il y en a sûrement du monde qui sont forts, mais il y a des personnes qui sortent d'un réseautage, je fais « Wow, asti, quel réseautage, j'ai signé plein de deals aujourd'hui » ou comme « plein de deals ». Non, ils vont tous dire « Ah, ça va être bon, ouais, ouais, telle personne, je vais y reparler. » Puis là, l'autre personne, il y a d'autres priorités, d'autres affaires, tu tombes dans le fil, ça s'en va à 4 ans plus tard. Peut-être que ça découle à quelque chose. Mais demain matin, c'est pas bon. C'est des faux espoirs, c'est du feeling, hein, comme on entend souvent.
Ouais. Puis il y a quelque chose que je te dis tantôt que j'aimerais rebondir, il y a quelque chose qui me dérange en ce moment avec le AI. Bien que ça peut être excessivement pratique là, de voir les gens déléguer leur setting, leur prospection, leur vente. Même, you know, j'ai vu ça, là, sales hype, genre engager un singe qui vend à ta place. Là, je trouvais tellement ça réducteur que genre ça commence à m'inquiéter parce que tous ceux qui ne veulent pas adresser le besoin de développement des compétences au niveau de la vente vont aller vers des stratégies très plaquées, genre ou robotisées, là, comme on peut se le dire. Là. Puis essentiellement, ça m'inquiète. Tu sais, le porte-à-porte, pour n'importe qui va cogner 1000 portes, vous allez avoir la meilleure progression en termes de communication, vente, puis c'est le plus gros cadeau que vous pourriez vous faire cette année pour acquérir quelque chose de base, une base ou une fondation solide en communication et en vente. Puis ça, ben, ça vous appartient, ça, c'est à vous là, après ça. Puis on peut pas vous l'enlever non plus.
Ah, c'est vrai que c'est inquiétant, puis pas juste pour ça, parce que... Une fois que tu viens tout automatiser ton processus, je pourrais le dire comme ça, ben à la fin de la journée, le client, il achète quoi? Il achète pas toi nécessairement, il achète pas ton entreprise, il achète des caractéristiques, il achète un prix, il achète tout ce qui est comme transmettable dans un processus automatisé. Tu peux pas transmettre d'émotion dans un processus automatisé et pourtant, la vente, la bonne vente se fait par un transfert d'émotion, de confiance entre l'acheteur puis le vendeur puis le service qui va s'en découler ou le produit qui va s'en découler. Puis moi, ce qui me fait peur de ça puis ce qui m'inquiète du AI, c'est justement, de un, oui, comme tu le dis, le fait que les gens veulent pas aller chercher les compétences, mais de deux, c'est que ça va diminuer leur valeur. Puis de vendre par le prix, ça va être correct, là, tantôt. Là. Ben moi, je suis ce prix là où je suis moins cher. Puis on va se positionner comme ça. Fait que pour moi, c'est comme de reculer en arrière plutôt que d'avancer. On utilise la technologie, mais ça fait pas avancer ta business. Ça risque de la faire stagner ou slash, voire même reculer. C'est dangereux.
Non, mais pour n'importe qui rentre dans un funnel, là, puis qui remarque que c'est pas un humain qui parle, là, c'est-tu déplaisant?
Non,
mais... C'est méga déplaisant, voyons.
Si je veux aller, si je veux aller me faire répondre par un robot, je veux dire, je vais le savoir, m'aller parler à ChatGPT, esti, là.
Bon, ouais, puis je m'attends à ce que tu me charges pas cher, hein, parce que si t'es pas assez foutu de me parler, là, c'est des bonnes chances que je m'arrange autrement ou que je trouve une ressource qui coûte vraiment pas cher, tu sais. Fait que c'est dur dans la création de valeur. Fait que si on revient à l'essence même, c'est qu'actuellement, ce que je ressens dans plusieurs domaines du service, il y a un ralentissement cet été. Il y a deux camps, là. Il y a un camp qui vibe sur une notoriété de plusieurs années, qui fait en sorte que la situation actuelle ne les met pas tant dans l'eau chaude, mais tous ceux qui se sont lancés dans un 0-5 ans, ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment pas facile. Puis la valeur refuge, là, ça devrait être le porte-à-porte, en ce moment, dans le service. Sauve ton année, sauve ta gang, sauve tes employés, mets-toi dans l'eau chaude, va chercher ce qu'il faut pour être capable de sauver ton année. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton entreprise puis à toute ta structure qui tient à toi. Parce que tous ces gens-là peuvent finir à la rue, parce que, ben, pas à la rue, mais ils peuvent tous finir sans emploi. Ça, c'est ta responsabilité d'entrepreneur d'être capable de provide puis d'amener de la job pour que tout le monde travaille. T'sais. Puis ça, c'est une fatalité. T'sais.
Très bien dit. C'est quoi, mettons, ben, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a jamais cogné des portes, là, tu sais, puis. Comment qu'on starte? C'est quoi les premières étapes? Comment qu'on va faire ça du porte-à-porte?
Hey, c'est un excellent exemple. C'est une excellente question. Je pensais pas qu'on sautait là-dedans.
Ben non, mais je me dis, Chris, je me mets dans la peau de ce monde-là qui nous écoute aujourd'hui pour ça.
Ouais, c'est quand même beau, vous dites que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on fait. Bon, ben parfait. Fac. Évidemment, tu vas t'habiller en complet avec une cravate, un nœud papillon, minimum. Hein, Nick?
Les deux. Cravate avec le nœud papillon par-dessus.
Donc, le plus friendly possible, le moins brandé possible, OK, pour la présentation. Puis pour le reste, ça te prend une introduction qui est extrêmement rapide, OK? Donc, on va pas mettre les titres que tu mets sur LinkedIn pour te présenter. Ça serait la première chose que je dirais. En deuxième temps, le plus vite que tu rentres en dedans, le plus vite tu réussis. On pitch pas dehors, on pitch en dedans. Même s'il fait 30 degrés, ben là, il y a des pertes de fraîcheur pour l'air climatisé. Puis s'il fait moins 10, il y a des pertes de chaleur à l'intérieur. Coucheur, le courant va vous rentrer, je vais vous expliquer pourquoi je suis ici. La raison est simple, c'est que psychologiquement, à l'intérieur, vous êtes un invité, à l'extérieur, vous êtes un ennemi. OK? Donc, ça vient shifter le mindset du client. On est plus dans un environnement positif. Les enfants viennent vous voir, les chiens viennent vous voir, vous flattez les chiens. Vous êtes déjà plus comme un invité. Ok.
Peux-tu dire la phrase?
Vas-y. Parce que si je la dis, c'est dégueu, là.
When you're on the porch, you're a pest. When you're inside, you're a guest. Donc, c'est une phrase anglophone, bien évidemment. Donc, comme Pierre-Luc l'a dit, quand on est sur le porche, on est de la peste. Lorsqu'on est à l'intérieur, on est un invité, guest. Donc, gardez cette phrase-là en tête, c'est vraiment important.
Ouais. Et donc, à partir du moment qu'on va rentrer à l'intérieur, on est capable d'avoir 100% l'attention du client. Parce que, mettons, là, je parle aux parents, mais aussi à n'importe qui est à la maison, qui a un chien, qui a un chat. On veut pas que les animaux sortent. Il y en a qui ont tendance à tout le temps s'enfuir. On veut pas que les enfants sortent dehors non plus. Alors, les clients ont jamais tendance à vraiment t'écouter quand t'es à l'extérieur. Fait qu'ils vont juste hocher de la tête, puis ils vont dire pas intéressé, puis ils vont raccrocher ou fermer la porte, là, essentiellement. Mmh. Donc, c'est pour ça que je propose de rentrer à l'intérieur. Fait que ça, c'est les deux points d'entrée. Puis pour moi, un script de porte-à-porte, ça doit durer maximum 30 secondes.
Ouais.
Maximum. Parce que ça doit être assez vulgarisé pour qu'on comprenne pourquoi t'es là. Là, t'sais.
Ah, et puis il y a quelque chose, c'est un concept qu'il faut garder en tête. Puis là, c'est là que tout le monde sont comme, ouais, mais là, personne a envie de se faire solliciter dans la vie. T'sais, en voulant dire, il y a personne qui va t'ouvrir la porte, va faire, oui, hey, donne-moi ton script, je t'écoute et je prends des notes. OK, t'arrives dans l'intimité des gens, sont en train de souper, sont en train de faire autre chose. Première chose mentale qu'il faut que t'arrives à enlever de ta tête, c'est que tu vas toujours déranger. Si tu t'en vas là en espoir de « Ah non, ils sont en train de souper, je vais revenir tantôt. » Ou « Ah, sont en train de travailler, je vais attendre, je vais repasser plus tard. » On s'en crisse. Il faut que t'ailles parler à chaque personne qui est là. De prendre le temps justement de revenir faire ça, tu perds trop de temps. Donc, à toi d'aller déranger chaque personne. Puis là où est-ce que tu vas être capable d'attirer leur attention, c'est justement avec un bon pitch, un bon intro qui va te permettre de créer quelque chose, un étincelle, un questionnement dans la tête du client. Il va faire « OK, tell me more, dis-moi en plus » et ben je vais rentrer en dedans deux secondes, je vais t'en parler davantage à l'intérieur. Fait qu'à l'extérieur, tu fais juste puncher, c'est un hook. Hein, pour ceux qui sont en marketing ou qui sont bons en marketing sur le web, le hook en haut, l'affaire la plus importante, c'est ça qu'on a besoin de faire dans le début de notre phrase ou de notre pitch marketing. Après ça, une fois qu'on a le hook, on veut rentrer à l'intérieur pour en dire plus avec le client. Et là, on a une belle position pour qu'il nous écoute puis qu'on puisse parler sans avoir besoin de termes de vente ou quoi que ce soit rendu là. Juste de discuter avec la personne, ça va quand même déjà faire le travail à la base. Excuse-moi, je ne sais plus t'étais rendu où, mais je voulais...
Non, tu parlais du hook. Moi, j'appelle ça cibler une douleur, tu sais, à porte à porte, tu sais. Et là, si tu vas pour la toiture pis qu'il y a des Doritos sur le toit, c'est ça, la douleur, tu sais. Si les vitres sont dégueulasses, c'est ça, la douleur. Si tu vois de la moisissure sur le revêtement, c'est ça, la douleur. Je pense qu'avant même d'amorcer une offensive de porte à porte, il faut préalablement avoir ciblé quelque chose. Parce que sinon, c'est comme parler un peu dans le vide, là. S'il n'y a pas de besoin, on n'a rien à combler. Puis si vous nous suivez depuis un certain moment, il faut comprendre que nous, on cible toujours une problématique et qu'on vient trouver une solution à cette problématique-là. Et c'est ce qui facilite énormément le processus de vente. Fort à parier que s'il y a des Doritos sur le toit, le client, il sait que son toit, il est dû. C'est juste qu'il n'a peut-être pas eu le temps de le gérer. C'est peut-être juste parce que la vie va vite. C'est plusieurs raisons. Fait que peut-être que d'arriver sur place, juste de dire, ah, on a remarqué qu'il y avait des Doritos sur votre toit, ça les fait rire, une touche d'humour. Je suis là pour vous offrir une soumission gratuite. Je vais rentrer, ça va prendre 2 minutes, boum, 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 puis on fait la soumission. Fait que, tu sais, pour faire du pouce sur ton hook, celle-là, il est important. Mm-hmm. Là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être, genre, surprendre du monde, hein, mais faut peut-être t'asseoir à table. OK? On prend pas un rendez-vous, là. On s'en va soumissionner. Parce que là, t'arrives, tu crées une émotion, tu soulèves une douleur, puis tu dis, je vais revenir t'en voir demain. Demain, là, ils seront pas là. Ils seront pas là. On arrive, on soumissionne, puis on fait la job qu'on a à faire, puis on close la job. On est là pour ça, on est là pour les bonnes raisons, puis c'est nous la bonne ressource pour vous le faire. Vous avez pas eu le temps de gérer, blablabla, peu importe c'est quoi la situation, mais on s'en va s'asseoir à la table, puis on demande un verre d'eau. Si la personne va nous apporter un verre d'eau la majorité du temps, ça te dit non, on s'entend-tu que ça commence mal? Le climat de confiance n'est pas tellement là. Et c'est ensuite que là, on n'est plus dans la prospection, on est rendu dans le processus de vente. Alors, on va pas faire un cours en un sur le processus de vente, mais à partir du moment que tu t'assois à la table, tu n'es plus dans la prospection, tu es dans le processus de vente. Alors, pré-qualif, et là, on rentre dans la présentation de l'offre et de faire passer un moment exceptionnel au client. Puis de sortir avec un contrat, avec un dépôt, un premier paiement ou un dépôt, le cas échéant. Fait que vraiment, là, c'est OK, là, j'ai de l'intérêt, parfait, on va passer à la table, je vais vous expliquer comment ça va se passer, vous pointez la table, vous vous rendez là. Boum.
J'aime bien tous les points que tu as apportés au niveau du parcours là, dans le porte-à-porte. Je pense que ça a le mérite d'être clair pour tout le monde. Et c'est qu'on cogne à la porte, on crée de l'intérêt, on rentre à l'intérieur de la maison, on s'en va s'asseoir à la table, puis on fait notre soumission, on fait qu'est-ce qu'on a à faire rendu à ce moment-là. J'aimerais ça revenir peut-être juste avant. Pour ceux et celles qui peut-être savent pas par où commencer, même avant ça, pour aller cogner des portes, ce que tu as besoin d'avoir, comme tu l'as dit tantôt, c'est un complet de revenir avec l'habillement, mais tu as juste besoin de tes souliers, d'être habillé de ton véhicule, de te déplacer. Choisis des secteurs en fonction de ta clientèle cible. Si, comme PL l'a dit, tu vends de la toiture, ben va dans un quartier où est-ce que tu vois que les toitures semblent assez... Enfin, va pas dans le quartier qui a 4 ans, là, 5 ans, asti, il n'y aurait pas de toiture à faire là. Fait que, un peu pour tout le monde. Si ta clientèle, t'es courtier immobilier, puis tu te spécialises avec peut-être les personnes un peu plus âgées qui veulent s'en aller en retraite, puis c'est vraiment ce que t'es bon, ben essaie d'aller cibler des quartiers justement où il y a peut-être plus de ces gens-là dedans. À toi d'aller... Je pourrais dire faciliter ton travail, d'aller rejoindre un peu plus ta clientèle. Des fois, on peut pas le savoir, mais t'es capable de faire de la préparation. Fait que d'identifier c'est quel secteur tu vas aller travailler, quand est-ce que tu vas aller les cogner. T'as-tu des jobs dans ce coin-là en même temps que tu peux faire? Viens vraiment te mettre de la préparation parce que si tu dis moi y aller là, même ça me tente, là, tu iras jamais, OK? Prépare-toi, organise-le, mets-le à l'agenda. Setup-toi, tu sais, prépare ton script, ton approche, là, tu sais, warm-up-toi sur ça. D'ailleurs, on a plein de contenu sur le script, là, tu sais, script qui hook, qui book. On a le toolkit dans lequel que tu peux monter ton pitch, tes affaires. On donne une affaire de script aussi. Bref, on a bien, bien du stock. Si t'as besoin de contenu, de savoir comment te starter, on a bien du stock gratuit. T'as juste à nous écrire pour ça sur Facebook, Nicolas Aubin puis Alec Murray. On va t'envoyer du stock. Mais après ça, une fois que t'as ton script, t'as tes secteurs, t'as mis tes souliers, c'est booké à ton agenda, t'as pas de raison de pas y aller. Puis tu vas te casser la gueule au début, tu vas voir, ça va être tough, ça va faire mal. Mais c'est là que tu vas apprendre, c'est là que tu vas évoluer pour de vrai. Comme on en a parlé au début, tu sais.
On avait un de nos étudiants, il avait demandé de filmer sa première porte, tu sais. Un client, il dit, c'est une bonne histoire, ça. Il dit, votre étudiant, il est pourri en hostie en porte-à-porte. C'était bon, mais il fallait casser la glace, il fallait qu'il se passe quelque chose avec ça. Puis, tu sais, je pense qu'on a beaucoup illustré, mais je terminerai sur un aspect psychologique qui structure le passage à l'action. C'est une de mes phrases favorites, là, qui est « l'action précède la motivation et non l'inverse ». Et je pense que ce concept-là, c'est une des raisons pour laquelle la très grande majorité du monde ne vont pas cogner des portes. Parce que si t'attends d'être motivé, ben tu iras jamais, Coco. C'est ça qui va se passer. Il faut être un petit peu masochiste pour faire du porte-à-porte et en réussir sa vie, mais je pense qu'il faut être masochiste pour être entrepreneur aussi. Parce qu'on gère des problèmes que personne ne veut gérer. Sinon, on serait tous gestionnaires ou entrepreneurs. Mais non, il y a personne qui a vu ce job-là ou cette opportunité-là parce que ça vient qu'un shitload d'anxiété, de problèmes, etc. Mais le porte-à-porte, là, c'est pour ça que je dis que c'est une belle école pour le développement de ta résilience psychologique, d'être capable d'en prendre, d'en prendre de plus en plus parce que le refus, ça fait mal. Mais après 1000 puis 10 000 refus, ça fait plus mal. Ça fait même plus mal.
Cette phrase-là, là, tu sais pas combien de fois je m'en suis dit à chaque fois que je m'en ai cogné des portes, je suis lancé à toi. Fait qu'on disait, bon, faut que j'y aille, je commence. Puis tu sais, j'y pense aujourd'hui, puis comme, j'ai le souvenir de deux émotions. J'ai le souvenir de moi qui s'en va dans mon char, genre, vers le secteur de porte-à-porte, qui essaie de se crinquer avec la musique, mais que dans ma tête, je suis juste, est-ce que ça me tente pas? Est-ce que, tu sais, j'essayais toutes les affaires là, psychologiques pour me minder, là. Puis là, j'étais comme, oh, est-ce que ça me tente pas d'aller cogner des calices de porte? Puis tu sais, t'imagines, là, moi, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup dans la vie. Il m'a cogné, là, il annonce un petit bleu. Des fois, là, on checkait la table. Ah, il annonce un peu de pluie, il va me faire pogner en plus. Non, non. Tu sais, là, tu pars, des fois, là, c'est dur, là, de partir avec le bon mindset, là, quand tu vas cogner des portes. Calissement difficile. C'est pas qu'un bon mindset, même déjà en partant, Chris, t'as une longueur d'avance sur ben du monde. Mais à chaque fois, j'allais commencer à cogner. Paf, une porte, deux portes. Pouf! Je faisais mon script. Paf, gros fit avec le client en partant. Style, là, yes, je rentre en dedans. Room, l'effet là en dedans là, de quand tu rentres là. Puis là tu vois que tu commences à OK, ça va bien, je parle au client, Chris il est intéressé déjà, je vois les signes comme j'ai l'habitude, j'ai vu les signes là, quand que ça s'en va vers un close, puis tout est beau. Cet astille feeling là là. Pour vrai là, c'est plus fort je trouve que de faire des ventes en ligne ou n'importe quoi encore là, d'être capable de rentrer en dedans chez quelqu'un, de faire tellement. Puis là, tu sors de là, là, on mettait notre pancarte sur le terrain. Installer la pancarte, dire ça. Je m'en allais dans mon char, je prenais la photo, j'envoyais ça dans le groupe. Plus un resti, juste ce feeling-là, là. Ah, c'est-tu que c'était malade.
Ouais, c'est sûr qu'on avait. On avait toute une culture de performance, de vente exceptionnelle. On se challengeait entre nous tous, puis c'était vraiment l'enfer comment on avait du fun à faire ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on en parle souvent comme étant de la nostalgie, parce que pour nous, c'était même pas difficile. C'était comme, hey, à soir, au lieu de prendre congé, on va-tu cogner des portes? C'était ça, là.
C'est pas vrai que c'était pas difficile. C'était difficile mentalement. Mais en termes de statistiques, on les sortait tout le temps.
Ben ouais, exact.
C'était tout le temps rushant, là.
Fait que voilà, fait que la clé du succès ici, c'est de passer à l'action, puis t'as le droit de faire des erreurs, puis t'as le droit d'en faire beaucoup, parce que dans une semaine, tu vas avoir parlé à 300 personnes, fait que la force des choses va faire en sorte que la semaine prochaine, puis l'autre d'après, tu vas vraiment être meilleur, puis dans deux mois, tu risques d'être excellent. C'est ça qui va se passer, parce que dans la vie, il n'y a aucune occurrence que tu puisses parler à autant de gens, même en réseautage. Impossible. À moins que tu fasses 27 réseautages par semaine, puis bon Dieu que t'as du temps à perdre si c'est ça que tu fais, là. Fait que genre, puis t'as 160 cartes d'affaires dans ton petit livret, là, mais tu sais, essentiellement, c'est la meilleure approche pour développer des compétences rapidement, sincèrement. Fait que je pense à wrap up bien, là. Tu sais, on a déjà rendu une quarantaine de minutes. Les tips and tricks, en plus, on vous a donné un peu comment faire une approche, appliquer ces quelques trucs-là avec votre puis placez votre offre de service au centre de tout ça, passez à l'action, puis let the magic happen.
Merci PL, merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode que je me souviens plus le nombre. Je suis très content d'avoir pu parler de ça puis de partager ça. Ça me fait toujours quelque chose de revenir sur le porte-à-porte. Et on dirait, là, l'été arrive, là, comme tu disais au début, ça me donne le goût. On dirait j'ai le goût d'aller cogner des portes. Là. Je suis comme, il me semble que j'irais faire des ventes en porte-à-porte quand il fait beau comme ça. En tout cas, c'est tout le temps le fun. Fait que je vous invite à passer à l'action là-dessus. Si vous sentez que vous avez besoin de faire ça, que vous êtes là dans votre business, n'hésitez pas à nous écrire sur les questions, vous voulez vous faire challenger des fois. Ça va toujours nous faire plaisir. C'est un peu notre dada de parler de ça aussi. Fait que écrivez-nous. Pierre-Luc Murray, Nicolas Aubin sur Facebook. Sinon, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, si vous aimez le contenu. Sur Instagram aussi, exclusivement, on a plus de contenu que partout ailleurs. Fait que n'hésitez pas à venir nous rejoindre, h2h.academy sur Insta. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes ventes. À la prochaine.